d'Alfred de Musset, Frédéric et Berderette. Vers les dernières années de la Restauration, un jeune homme de Besançon nommé Frédéric Humbert vint à Paris pour faire son droit. Sa famille n'était pas riche et ne lui donnait qu'une modique pension. Mais comme il avait beaucoup d'ordre, peu de choses lui suffisaient. Il se logea dans le quartier latin afin d'être à portée de suivre les cours. Ses goûts et son humeur étaient si sédentaires qu'il visita à peine les promenades, les places et les monuments qui sont à Paris l'objet de la curiosité des étrangers. La société de quelques jeunes gens, avec lesquels il eut bientôt occasion de s'y lier à l'école de droit, quelques maisons que des lettres de recommandation lui avaient ouvertes, telles étaient ses seules distractions. Il entretenait une correspondance réglée avec ses parents et leur annonçait le succès de ses examens au fur et à mesure qu'il les subissait. Après avoir travaillé assidûment pendant 3 ans, il vit enfin arriver le moment où il allait être reçu avocat. Il ne lui restait plus qu'à soutenir sa thèse et il avait déjà fixé l'époque de son retour à Besançon lorsqu'une circonstance imprévue vint pour quelque temps troubler son repos. Il demeurait rue de la Harpe au 3e étage et il avait sur sa croisée des fleurs dont prenait soin. En les arrosant un matin, il aperçut à une fenêtre en face de lui une jeune fille qui se mit à rire. Elle le regardait d'un air si gai et si ouvert qu'il ne put s'empêcher de lui faire un signe de tête. Elle lui rendit son salut de bonne grâce et à compter de ce moment, ils prirent l'habitude de se souhaiter ainsi le bonjour tous les matins d'un côté de la rue à l'autre. Un jour que Frédéric s'était levé de meilleure heure que de coutume, après avoir salué sa voisine, il prit une feuille de papier qu'il plia en forme de lettre et qu'il montra de loin la jeune fille pour lui demander s'il pouvait lui écrire. Mais elle secoua la tête en signe de refus et se retira d'un air fâché. Le lendemain, le hasard fit qu'ils se rencontrèrent dans la rue. La demoiselle rentrait chez elle, accompagnée d'un jeune homme que Frédéric ne connaissait pas et qu'il ne se rappela point avoir jamais vu parmi les étudiants. À la tournure et à la toilette de sa voisine, quoiqu'elle portât un chapeau, il jugea qu'elle devait être ce qu'on appelle à Paris une grisette. Le cavalier, d'après son âge, n'était sans doute qu'un frère ou un amant. Il semblait plutôt un amant qu'un frère. Quoi qu'il en fût, Frédéric résolut de ne plus songer à cette aventure. Les premiers froids étant venus, il ôta ses fleurs de la place qu'elles occupaient sur sa croisée. Mais malgré lui, il regardait toujours dehors de temps en temps. Il rapprocha de la fenêtre le bureau où il travaillait et arrangea son rideau de façon à pouvoir guetter sans être aperçu. La voisine, de son côté, ne se montra plus le matin. Elle paraissait quelquefois à 5 heures du soir pour fermer ses persiennes après avoir allumé sa lampe. Frédéric se hasarda un jour à lui envoyer un baiser. Il fut surpris de voir qu'elle le lui rendit aussi gaiement qu'autrefois son premier salut. Il prit de nouveau son morceau de papier qui était resté plié sur la table et s'expliquant par signe du mieux qu'il put, il demanda qu'on lui écrivît ou qu'on reçût son billet. Mais la réponse ne fut pas plus favorable que la première fois. La grisette secoua encore la tête. Et il en fut de même pendant 8 jours. Les baisers étaient bienvenus, mais quant aux lettres, il fallait y renoncer. Au bout d'une semaine, Frédéric, dépité d'essuyer sans cesse le même refus, déchira son papier devant sa voisine. Elle en rit d'abord, resta quelque temps indécise, puis tira de la poche de son tablier un billet qu'elle montra à son tour à l'étudiant. Jugez bien qu'il ne secoua pas la tête. Ne pouvant parler, il écrivit en grosses lettres sur une grande feuille de papier à dessin ces trois noms « Je vous adore ». Puis il posa la feuille sur une chaise et plaça une bougie allumée de chaque côté. La belle grisette, armée d'une lorgnette, put lire ainsi la première déclaration de son amant. Elle y répondit par un sourire et fit signe à Frédéric de descendre pour venir chercher le billet que lui avait montré. Le temps était obscur, il faisait un épais brouillard. Le jeune homme descendit lestement, traversa la rue et entra dans la maison de sa voisine. La porte était ouverte et la demoiselle était au bas de l'escalier. Frédéric, l'entourant de ses bras, fut plus prompt à l'embrasser qu'à lui parler. Elle s'enfuit toute tremblante. « Que m'avez-vous écrit ? » demanda-t-il. « Quand et comment puis-je vous revoir ?» Elle s'arrêta, revint sur ses pas et glissa son billet dans la main de Frédéric. « Tenez, lui dit-elle, et ne découchez plus !» Il était arrivé, en effet, à l'étudiant, depuis peu, de passer, malgré sa sagesse, la nuit hors du logis, et la grisette l'avait remarqué. Quand deux amoureux sont d'accord, les obstacles sont bien peu de chose. Le billet remis à Frédéric annonçait les plus grandes précautions à prendre, parlait de dangers menaçants et demandait où il fallait aller pour se voir. Ce ne pouvait être, disait-on, dans l'appartement du jeune homme. Il fallut donc chercher une chambrette aux alentours. Oh, le quartier latin n'en manque pas. Le premier rendez-vous était fixé lorsque Frédéric reçut la lettre suivante. « Vous dites que vous m'adorez et vous ne me dites pas si vous me trouvez plus jolie. Vous m'avez mal vu et pour pouvoir m'aimer, il faut que vous me voyez mieux. Je vais sortir avec ma bonne. Sortez de votre côté et venez à ma rencontre dans la rue. Vous m'aborderez comme une connaissance. Vous me direz quelques mots et regardez-moi bien pendant ce temps-là. Si vous ne me trouvez pas jolie, vous me le direz, je ne m'en fâcherai pas. C'est tout simple, et d'ailleurs, je ne suis pas méchante. » 1000 baisers, Bernerette. Frédéric obéit aux ordres de sa maîtresse, et je n'ai que faire de dire que l'épreuve ne fut pas douteuse. Cependant, Bernerette, par un raffinement de coquetterie, au lieu de se munir de tous ses atours pour cette rencontre, se présenta en négligé, les cheveux relevés sous son chapeau. L'étudiant lui fit un respectueux salut, lui répéta qu'il la trouvait plus belle que jamais, puis rentra chez lui, ravi de sa nouvelle conquête. Mais elle lui sembla bien plus belle encore le lendemain, lorsqu'elle vint au rendez-vous, et il vit là qu'elle pouvait se passer non seulement d'atours, mais encore de toute espèce de toilette, même la plus négligée. Frédéric et Bernerette étaient livrés à leur amour avant d'avoir échangé presque un seul mot, et ils en étaient à se tutoyer aux premières paroles qu'ils s'adressèrent. Enlacés dans les bras l'un de l'autre, ils s'assirent près de la cheminée où pétillait un bon feu. Là, Bernerette, appuyant sur les genoux de son amant ses genoux brillants de belles couleurs du plaisir, lui apprit qui elle était. Elle avait joué la comédie en province. Elle s'appelait Louise Durand et Bernerette était son nom de guerre. Elle vivait depuis 2 ans avec un jeune homme qu'elle n'aimait plus. Elle voulait à tout prix s'en débarrasser et changer sa manière de vivre, soit en rentrant au théâtre, si elle trouvait quelque protection, soit en apprenant un métier. Du reste, elle ne s'expliqua ni sur sa famille, ni sur le passé. Elle annonçait seulement sa résolution de briser ses liens qui lui étaient insupportables. Frédéric ne voulut pas la tromper et lui peignit sincèrement la position où il se trouvait lui-même. N'étant pas riche et connaissant peu le monde, il ne pouvait lui être que d'un bien faible secours. « Comme je ne puis me charger de toi, ajoutait-il, je ne veux sous aucun prétexte devenir la cause d'une rupture. Mais comme il me serait trop cruel de te partager avec un autre, je partirai bien à regret et je garderai dans mon cœur le souvenir d'un heureux jour. » À cette déclaration inattendue, Bernerette se mit à pleurer. « Mais pourquoi partir ? » disait-elle. « Si je me brouille avec mon amant, ce n'est pas toi qui en seras cause, puisqu'il y a longtemps que j'y suis déterminée. Si j'entre chez une lingère pour faire mon apprentissage, est-ce que tu ne m'aimeras plus ? Il est fâcheux que tu ne sois pas riche, mais que veux-tu ? Nous ferons comme nous pourrons. » Frédéric allait répliquer, mais un baiser lui imposa silence. « N'en parlons plus et n'y pensons plus, » dit enfin Bernerette. « Quand tu voudras de moi, fais-moi signe par la fenêtre, et ne t'inquiète pas du reste, qui ne te regarde pas. » Pendant 6 semaines environ, Frédéric ne travailla guère. Sa thèse commençait et restait sur sa table. Il y ajoutait une ligne de temps en temps. Il savait que, si l'envie de s'amuser lui venait, il n'avait qu'à ouvrir sa croisée. Bernerette était toujours prête. Et quand il lui demandait comment elle jouissait de tant de liberté, elle lui répondait toujours que cela ne le regardait pas. Il avait dans son tiroir quelques économies qu'il dépensa rapidement. Au bout de 15 jours, il fut obligé d'avoir recours à un ami pour donner à souper à sa maîtresse. Quand cet ami, qui se nommait Gérard, apprit le nouveau genre de vie de Frédéric, « Prends garde à toi, lui dit-il, tu es amoureux. Ta grisette n'a rien et t'as pas grand-chose. Oh, je me défierai à ta place d'une comédienne de province. C'est pas sûr là, c'est même plus loin qu'on ne pense. » Frédéric répondit en riant qu'il ne s'agissait point d'une passion, mais d'une amourette passagère. Il raconta à Gérard comment il avait fait connaissance par sa croisée avec Bernerette. « Mais c'est une fille qui ne pense qu'à rire, » dit-il à son ami. « Il n'y a rien de moins dangereux qu'elle et rien de moins sérieux que notre liaison. » Gérard se rendit à ses raisons et engagea cependant Frédéric à travailler. Celui-ci lui assura que sa thèse allait bientôt être terminée. Et pour n'avoir pas fait un mensonge, il se mit en effet à l'ouvrage pendant quelques heures. Mais le soir même, Bernerette l'attendait. Ils allèrent ensemble à la chaumière et le travail fut laissé de côté. La chaumière est le tivoli du quartier latin. C'est le rendez-vous des étudiants et des grisettes. Il s'en faut que ce soit un lieu de bonne compagnie, mais c'est un lieu de plaisir. On y boit de la bière et on y danse. Une gaieté franche, parfois un peu bruyante, anime l'assemblée. Les élégantes y ont des bonnets ronds, et les fashionables des vestes de velours. On y fume, on y trinque, on y fait l'amour en plein air. Si la police interdisait l'entrée de ce jardin délicieux aux créatures qu'elle enregistre, ce serait peut-être là seulement que se retrouvait encore à Paris cette ancienne vie des étudiants, si libre et si joyeuse, dont les traditions se perdent tous les jours. Frédéric, en sa qualité de provincial, n'était pas homme à faire le difficile sur les gens qu'il rencontrait là. Et Bernerette, qui ne voulait que se divertir, ne l'en eût pas fait apercevoir. Il faut un certain usage du monde pour savoir où il est permis de s'amuser. Notre recoupe ne raisonnait pas à ses plaisirs. Quand il avait dansé toute la soirée, il rentrait fatigué et content. Frédéric était si novice que ses premières folies de jeunesse lui semblaient le bonheur même. Quand Bernerette, appuyée sur son bras, sautait en marchant sur le boulevard Neuf, il n'imaginait rien de plus doux que de vivre ainsi au jour le jour. Ils se demandaient de temps en temps l'un à l'autre où en étaient leurs affaires, mais ni l'un ni l'autre ne répondait clairement à cette question. La chambrette garnie, située près du Luxembourg, était payée pour 2 mois. C'était l'important. Quelquefois, en arrivant, Bernerette avait sous le bras un pâté enveloppé dans du papier, et Frédéric une bouteille de bon vin. Il s'attablait alors. La jeune fille chantait au dessert les couplets des vaudevilles qu'elle avait joués, et si elle avait oublié les paroles, l'étudiant improvisait pour les remplacer des vers à la louange de son ami, et quand il ne trouvait pas la rime, un baiser en tenait lieu. Il passait ainsi la nuit tête à tête, sans se douter du temps qui s'écoulait. « Tu ne fais plus rien, » disait Gérard, « et ton labourette passagère durera plus longtemps qu'une passion. Prends garde à toi, tu dépenses de l'argent et tu négliges les moyens que tu as d'en gagner. »« Rassure-toi, » répondait Frédéric, « ma thèse avance et Bernerette va entrer en apprentissage chez une lingère. Laisse-moi jouir en paix d'un moment de bonheur. Et ne t'inquiète pas de l'avenir. » L'époque approchait cependant où il fallait imprimer la thèse. Elle fut achevée à la hâte et n'en valut pas moins pour cela. Frédéric fut reçu avocat. Il adressa à Besançon plusieurs exemplaires de sa dissertation accompagnés de son diplôme. Son père répondit à cette heureuse nouvelle par l'envoi d'une somme beaucoup plus considérable qu'il n'était nécessaire pour payer les frais de retour au pays. La joie paternelle vint donc ainsi, sans le savoir, au secours de l'amour. Frédéric put rendre à son ami l'argent que celui-ci lui avait prêté et le convaincre de l'inutilité de ses remontrances. Il voulut faire un cadeau à Bernerette, mais elle le refusa. « Fais-moi cadeau d'un souper, » lui dit-elle. « Tout ce que je veux de toi, c'est toi. » Avec un caractère aussi gai que celui de cette jeune fille, dès qu'elle avait le moindre chagrin, il était facile de s'en apercevoir. Frédéric la trouva triste un jour et lui en demanda la raison. Après quelques hésitations, elle tira de sa poche une lettre. « C'est une lettre anonyme, » dit-elle. « Le jeune homme qui demeure avec moi l'a reçue hier et me l'a donnée en me disant qu'il n'ajoutait aucune foi à des accusations non signées. Qui a écrit cela, je l'ignore. L'orthographe est aussi mauvaise que le style. Mais ça n'en est pas moins dangereux pour moi. » On me dénonce comme une fille perdue, et l'on va jusqu'à préciser le jour et l'heure de nos derniers rendez-vous. Il faut que ce soit quelqu'un de la maison, une portière ou une femme de chambre. Oh, je ne sais que faire, ni comment me préserver du péril qui me menace. Mais quel péril ? Demanda Frédéric. Ah, je crois, dit en riant Bernerette, il n'y a pas moins que de ma vie. J'ai affaire à un homme d'un caractère violent. S'il savait que je le trompe, il serait très capable de me tuer. » Frédéric relut en vain la lettre et l'examina de 100 façons. Il ne put reconnaître l'écriture. Il entra chez lui fort inquiet et résolut de ne pas voir Bernerette de quelques jours. Mais il reçut bientôt d'elle un billet. « Il sait tout !» écrivait-elle. « Oh, je ne sais qui a parlé. Je crois que c'est la portière. Il ira vous voir. Il veut se battre avec vous. Je n'ai pas la force d'en dire davantage. Je suis plus morte que vive. » Frédéric passa la journée entière dans sa chambre. Il s'attendait à la visite de son rival, ou du moins à une provocation. Il fut surpris de ne recevoir ni l'une ni l'autre. Le lendemain, et pendant les 8 jours suivants, même silence. Il apprit enfin que M. de N., l'amant de Bernerette, avait eu avec elle une explication à la suite de laquelle celle-ci avait quitté la maison et s'était chauvée chez sa mère. Resté seul et désolé de la perte d'une maîtresse qu'il aimait éperdument, le jeune homme était sorti un matin et n'avait plus reparu. Au bout de 4 jours, ne la voyant pas revenir, on avait fait ouvrir la porte de son appartement. Il avait laissé sur sa table une lettre qui annonçait son fatal destin. Et ce ne fut qu'une semaine plus tard qu'on trouva dans la forêt de Meudon les restes de cet infortuné. L'impression que ressentit Frédéric à la nouvelle de ce suicide fut profonde. Bien qu'il ne connût pas ce jeune homme et qu'il n'eût jamais adressé la parole, il savait son nom, qui était celui d'une famille illustre. Il vit arriver les parents, les frères en deuil, et il sut les tristes détails des recherches auxquelles on avait été obligé de se livrer pour découvrir le mort. Les scellés furent mis. Bientôt après, les tapissiers enlevèrent les meubles. La fenêtre auprès de laquelle travaillait Bernerette restait ouverte et ne montra plus que le mur d'un appartement désert. On éprouve de remords que lorsqu'on est coupable, et Frédéric n'avait aucun reproche sérieux à se faire, puisqu'il n'avait trompé personne et qu'il n'avait même jamais su clairement où en étaient les choses entre la grisette et son amant. Mais il se sentait pénétré d'horreur en se voyant la cause involontaire d'une fatalité si cruelle. « Mais que l'a-t-il venu me trouver ?» se disait-il. « Que l'a-t-il tourné contre moi l'arme dont il a fait un si funeste usage ?»« Oh, je ne sais comment j'aurais agi, ni ce qui se serait passé. » Mais mon cœur me dit qu'il ne serait pas arrivé à malheur. Que n'ai-je appris seulement qu'il l'aimait à ce point? Que n'ai-je été témoin de sa douleur? Qui sait? Je serais peut-être parti, je l'aurais peut-être convaincu, guéri, ramené à la raison par des paroles franches et amicales. Dans tous les cas, il vivrait encore, et j'aimerais mieux qu'il m'eût cassé le bras que de penser qu'en se donnant la mort, il a peut-être prononcé mon nom. » Au milieu de ces tristes réflexions, arriva une lettre de Bernerette. Elle était malade et gardait le lit. Dans la dernière scène avec elle, M. de N. l'avait frappée. Elle avait fait une chute dangereuse. Frédéric sortit pour aller la voir, mais il n'en eut pas le courage. En la gardant pour maîtresse, il lui semblait commettre un meurtre. Il se décida à partir. Après avoir mis ordre à ses affaires, il envoya à la pauvre fille ce dont il put disposer, lui promit de ne pas l'abandonner si elle tombait dans la misère, puis il retourna à Besançon. Son arrivée fut, comme on peut penser, un jour de fête pour sa famille. On le félicita sur son nouveau titre. on l'accabla de questions sur son séjour à Paris. Son père le conduisit avec orgueil chez toutes les personnes de distinction de la ville. Et bientôt, on lui fit part d'un projet conçu pendant son absence. On avait pensé à le marier, et on lui proposa la main d'une jeune et jolie personne dont la fortune était honorable. Il ne refusa ni n'accepta. Il avait dans l'âme une tristesse que rien ne pouvait surmonter. Il se laissa mener partout où l'on voulut, répondit de son mieux à ceux qui l'interrogeaient, et s'efforça même de faire la cour à sa prétendue. Mais c'était sans plaisir et presque malgré lui qui s'acquittait de ses devoirs. Donc Bernerette lui fut assez chère pour le faire renoncer à un mariage avantageux. Mais les dernières circonstances avaient agi sur lui trop fortement pour qu'il puisse en remettre si vite. Dans un cœur troublé par le souvenir, il n'y a pas de place pour l'espérance. Ces deux sentiments, dans leur extrême vivacité, s'excluent l'un l'autre. Ce n'est qu'en s'affaiblissant qu'ils se concilient, s'adoucissent et finissent par s'appeler mutuellement. La jeune personne dont il s'agissait avait un caractère très mélancolique. Elle n'éprouvait pour Frédéric ni sympathie ni répugnance. C'était, comme lui, par obéissance qu'elle se prêtait au projet de ses parents. Grâce à la facilité qu'on leur laissait de causer ensemble, ils s'aperçurent tous deux de la vérité. Ils sentirent que l'amour ne leur venait pas, et l'amitié leur vint sans effort. Un jour que les deux familles réunies avaient fait une partie de campagne, Frédéric, au retour, donna le bras à sa future. Elle lui demanda s'il n'avait pas laissé à Paris quelque affection, et il lui conta son histoire. Elle commença par la trouver plaisante et par la traiter de bagatelle. Frédéric n'en parlait pas non plus autrement que comme d'une folie sans importance. Mais la fin du récit parut sérieuse à Mlle Darcy. Oui, c'était le nom de la jeune personne. « Grand Dieu ! » fit-elle, « c'est bien cruel. Je comprends ce qui s'est passé en vous. Je vous en estime davantage, mais vous n'êtes pas coupable. Laissez faire le temps. Vos parents sont aussi pressés sans doute que les miens de conclure le mariage qu'ils ont en tête. Fiez-vous-en à moi, je vous épargnerai le plus d'ennuis possible, et en tout cas la peine d'un refus. » Ils se séparèrent sur ces mots. Frédéric soupçonna que Mlle Darcy avait de son côté une confidence à lui faire. Il ne se trompait pas. Elle aimait un jeune officier sans fortune qui avait demandé sa main et qui avait été repoussé par la famille. Elle fit preuve de franchise à son tour et Frédéric lui jura qu'il n'en ferait pas repentir. Ils établirent entre eux une convention tacite de résister à leurs parents tout en paraissant se soumettre à leur volonté. On les voyait sans cesse, l'un auprès de l'autre, dansant ensemble au bal, causant au salon, marchant à l'écart à la promenade. Mais après s'être comportés toute la journée comme deux amants, ils se serraient la main en se quittant et se répétaient chaque soir qu'ils ne deviendraient jamais époux. Deux pareilles situations sont très dangereuses. Elles ont un charme qui entraîne, et le cœur s'y livre avec confiance. Mais l'amour est une divinité jalouse, qui s'irrite dès qu'on cesse de la craindre, et on aime quelquefois seulement parce qu'on a promis de ne pas aimer. Au bout de quelque temps, Frédéric avait recouvré sa gaieté. Il se disait qu'après tout, c'était pas sa faute si une légère intrigue avait eu un dénouement sinistre, que tout autre à sa place eût agi comme lui, et qu'enfin il faut oublier ce qu'il est impossible de réparer. Il commença à trouver du plaisir à voir tous les jours Mademoiselle Darcy. Elle lui parut plus belle qu'au premier abord. Il ne changea pas de conduite auprès d'elle, mais il mit peu à peu dans ses discours et dans ses protestations d'amitié une chaleur à laquelle on ne pouvait se méprendre. Aussi la jeune personne ne s'y méprit-elle pas. L'instinct féminin l'avertit promptement de ce qui se passait dans le cœur de Frédéric. Elle en fut flattée et presque touchée. Mais soit qu'elle fût plus constante que lui, soit qu'elle ne voulut pas revenir sur sa parole, elle prit la détermination de rompre entièrement avec lui et de lui ôter toute espérance. Il fallait attendre pour cela qu'il s'expliquât plus clairement, et l'occasion s'en présenta bientôt. Un soir que Frédéric s'était montré plus enjoué qu'à l'ordinaire, Mademoiselle Darcy, pendant qu'on prenait le thé, alla s'asseoir dans une petite pièce reculée. Une certaine disposition romanesque, qui est souvent naturelle aux femmes, prêtait ce jour-là à son regard et à sa parole un attrait indéfinissable. Sans se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, elle se sentait la faculté de produire une impression violente, et elle cédait à la tentation d'user de sa puissance, dut-elle en souffrir elle-même. Frédéric l'avait vue sortir. Il la suivit, s'approcha et, après quelques mots sur l'air de tristesse qu'il remarquait en elle, « Eh bien, mademoiselle, lui dit-il, pensez-vous que le jour approche où il faudra vous déclarer d'une manière positive ? Avez-vous trouvé quelque moyen d'éluder cette nécessité ? Je viens vous conseiller là-dessus. Mon père me questionne sans cesse et je ne sais plus que lui répondre. Que puis-je objecter contre cette alliance et comment dire que je ne veux pas de vous ? Si je feins de vous trouver trop peu de beauté, de sagesse ou d'esprit, personne ne voudra me croire. Il faut donc que je dise que j'en aime une autre, et puis nous tarderons, et plus je mentirai en le disant. Comment pourrait-il en être autrement? Puis-je impunément vous voir sans cesse? L'image d'une personne absente peut-elle devant vous ne pas s'effacer? Apprenez-moi donc ce qu'il me faut répondre et ce que vous pensez vous-même. Vos intentions n'ont-elles pas changé? Laisserez-vous votre jeunesse consumer dans la solitude? Resterez-vous fidèle à un souvenir? Et ce souvenir vous suffira-t-il? Oh, si j'en juge d'après moi, j'avoue que je ne puis le croire. Car je sens que c'est se tromper que de résister à son propre cœur et à la destinée commune qui veut qu'on oublie et qu'on aime. Bon, je tiendrai ma parole si vous l'ordonnez, mais je ne puis m'empêcher de vous dire que cette obéissance me sera cruelle. Sachez donc que maintenant, c'est de vous seul que dépend votre avenir, et prononcez. « Je ne suis pas surprise de ce que vous me dites, » répondit Mademoiselle Darcy. « C'est là le langage de tous les hommes. Pour eux, le moment présent est tout, et ils se sacrifieraient leur vie entière à la tentation de faire un compliment. Les femmes ont aussi des tentations de ce genre, mais la différence est qu'elles y résistent. J'ai eu tort de me fier à vous. » Et il est juste que j'en porte la peine. Mais quand mon refus devrait vous blesser et m'attirer votre ressentiment, Vous apprendrez de moi une chose dont plus tard vous sentirez la vérité. C'est qu'on n'aime qu'une fois dans la vie, quand on est capable d'aimer. Les inconstants n'aiment pas, ils jouent avec leur cœur. Je sais que pour le mariage, on dit que l'amitié suffit. C'est possible dans certains cas, mais comment serait-ce possible pour nous, puisque vous savez que j'ai de l'amour pour quelqu'un? En supposant que vous abusiez aujourd'hui de ma confiance pour me déterminer à vous épouser, que ferez-vous de ce secret quand je serai votre femme? N'en sera-ce pas assez pour nous rendre à tous deux le bonheur impossible? Je veux croire que vos amours parisiennes ne sont qu'une folie de jeune homme. Pensez-vous qu'elle m'ait donné bonne opinion de votre cœur et qu'il me soit indifférent de vous connaître d'un caractère aussi frivole? Croyez-moi, Frédéric, ajouta-t-elle en prenant la main du jeune homme, croyez-moi, vous aimerez un jour, et ce jour-là, si vous vous souvenez de moi, vous aurez peut-être quelque estime pour celle qui a osé vous parler ainsi. Vous saurez alors ce que c'est que l'amour. Mademoiselle Darcy se leva à ces paroles et sortit. Elle avait vu le trouble de Frédéric et l'effet que son discours produisait sur lui. Elle le laissa plein de tristesse. Le pauvre garçon était trop inexpérimenté pour supposer que, dans une déclaration aussi formelle, il peut y avoir de la coquetterie. Il ne connaissait pas les mobiles étranges qui gouvernent quelquefois les actions des femmes. Il ne savait pas que celle qui veut réellement refuser se contente de dire non, et que celle qui s'explique veut être convaincue. Quoi qu'il en soit, cette conversation eut sur lui la plus fâcheuse influence. Au lieu de chercher à persuader Mademoiselle Darcy, il évita les jours suivants toute occasion de lui parler seul à seul. Trop fière pour se repentir, elle le laissa s'éloigner en silence. Il alla trouver son père et lui parla de la nécessité de faire son stage. Quant au mariage, ce fut Mademoiselle Darcy qui se chargea de répondre la première. Elle n'osa refuser tout à fait, de peur d'irriter sa famille, mais elle demanda qu'on lui donnât le temps de réfléchir, et on obtint qu'on la laisserait tranquille pendant un an. Frédéric se disposa donc à retourner à Paris. On augmenta un peu sa pension, et il quitta Besançon, plus triste encore qu'il n'y était venu. Le souvenir du dernier entretien avec Mademoiselle Darcy le poursuivait comme un présage funeste, et tandis que la malle-poste l'emportait loin de son pays, il se répétait tout bas, « Vous saurez ce que c'est que l'amour !»
Il ne logea point, cette fois, dans le quartier latin. Il avait affaire au palais de justice, et il prit une chambre près du quai aux fleurs. À peine arrivé, il reçut la visite de son ami Gérard. Celui-ci, pendant l'absence de Frédéric, avait fait un héritage considérable. La mort d'un vieil oncle l'avait rendu riche. Il avait un appartement dans la chaussée d'Antin, un cabriolet et des chevaux. Il entretenait en outre une jolie maîtresse. Il voyait beaucoup de jeunes gens, on jouait chez lui toute la journée et quelquefois toute la nuit. Il courait les bals, les spectacles, les promenades, en un mot, le modeste étudiant était devenu un jeune homme à la mode. Sans abandonner ses études, Frédéric fut entraîné dans le tourbillon qui environnait son ami. Il y apprit bientôt à mépriser ses anciens plaisirs de la chaumière. Ce n'est pas là qu'irait se montrer ce qu'on appelle la jeunesse dorée. C'est souvent moins bonne compagnie, mais peu importe. Il suffit de l'usage, et il est plus noble de se divertir chez Musard avec la canaille qu'au boulevard Neuf avec Donnel Jean. Gérard n'était pas d'une partie qu'il ne voulût y emmener Frédéric. Celui-ci résistait le plus possible et finissait par se laisser conduire. Il fit donc connaissance avec un monde qui lui était inconnu. Il vit de près des actrices, des danseuses, et l'approche de ces divinités est d'un effet immense sur un provincial. Il se lia avec des joueurs, des étourdis, des gens qui pariaient en souriant de 200 louis qu'ils avaient perdus la veille. Il lui arriva de passer la nuit avec eux, et il les vit, le jour venu, après 12 heures employées à boire et à remuer des cartes, se demandaient, en faisant leur toilette, quels seraient les plaisirs de la journée. Il fut invité à des soupers où chacun avait à ses côtés une femme à soi appartenant à laquelle on disait mot et qu'on en met en voiture, comme on prend sa canne et son chapeau. Bref, il assista à tous les travers, à tous les plaisirs de cette vie légère, insouciante, à l'abri de la tristesse, que mènent seuls quelques élus qui ne semblent appartenir que par la jouissance au reste de la race humaine. Il commença par s'en trouver bien, en ce qu'il y perdit toute humeur chagrine et tout souvenir importun. Et en effet, il n'y a pas moyen dans une sphère pareille d'être seulement préoccupé. Il faut se divertir ou s'en aller. Mais Frédéric se fit tort en même temps en ce qu'il perdit la réflexion et ses habitudes d'ordre, la suprême sauvegarde. Il n'avait pas de quoi jouer longtemps, et il joua, et son malheur voulut qu'il commençât par gagner, et sur son gain il eut de quoi perdre. Il était habillé par un vieux tailleur de Besançon qui depuis nombre d'années servait sa famille. Il lui écrivit qu'il ne voulait plus de ses habits et il prit un tailleur à la mode. Il n'eut bientôt plus le temps d'aller au palais. Comment l'aurait-il eu avec des jeunes gens qui, dans leur désœuvrement affairé, n'ont pas le loisir de lire un journal? Il faisait donc son stage sur le boulevard. Il dînait au café, allait au bois, avait de beaux habits et de l'or dans ses poches. Il ne lui manquait qu'un cheval et une maîtresse pour être un dandy accompli. Ce n'est pas peu dire, il est vrai. Au temps passé, un homme n'était homme et ne vivait réellement qu'à la condition de posséder 3 choses, un cheval, une femme et une épée. Notre siècle prosaïque et pusillanime a d'abord de ses 3 amis retranché le plus noble, le plus sûr, le plus inséparable de l'homme de cœur. Personne n'a plus l'épée au côté. Mais hélas, peu de gens ont un cheval, et il y en a qui se vantent de vivre sans maîtresse. Un jour que Frédéric avait des dettes urgentes à payer, il s'était vu forcé de faire quelques démarches auprès de ses compagnons de plaisir qui n'avaient pu l'obliger. Il obtint enfin, sur son billet, 3 000 francs d'un banquier qui connaissait son père. Lorsqu'il eut cette somme dans sa poche, se sentant joyeux et tranquille après beaucoup d'agitation, il fit un tour de boulevard avant de rentrer chez lui. Comme il passait au coin de la rue de la Paix pour s'en revenir dans les Tuileries, une femme, qui donnait le bras à un jeune homme, se mit à rire en le voyant. C'était Bernerette. Il s'arrêta et la suivit des yeux. De son côté, elle tourna plusieurs fois la tête. Il changea de route sans trop savoir pourquoi et s'en fut au café de Paris. Il s'y était promené 1 heure et il montait pour aller dîner, quand Bernerette passa de nouveau. Elle était seule. Il l'aborda, lui demanda si elle voulait venir dîner avec lui. Elle l'accepta et prit son bras, mais elle le pria de l'amener chez un traiteur moins en évidence. « Allons, cabaret, dit-elle gaiement, je n'aime pas dîner dans la rue. » Ils montèrent en fiacre et, comme autrefois, ils s'étaient donné 1000 baisers avant de se demander de leurs nouvelles. Le tête-à-tête fut joyeux et les tristes souvenirs en furent bannis. Bernadette se plaignit seulement que Frédéric ne fût pas venu la voir. Mais il se contenta de lui répondre qu'elle devait bien savoir pourquoi. Elle eut aussitôt dans les yeux de son amant et comprit qu'il fallait se taire. Assis près d'un bon feu, comme au premier jour, ils ne songèrent qu'à jouir en liberté de l'heureuse rencontre qu'ils devaient au hasard. Le vin de champagne anima leur gaieté, et avec lui vinrent les tendres propos qu'inspire cette liqueur de poète, dédaignée par les délicats. Après dîner, ils allèrent au spectacle. À 11 heures, Frédéric demanda à Bernadette où il fallait la reconduire. Elle garda quelque temps le silence, à demi honteuse et à demi craintive. Puis, en entourant de ses bras le cou du jeune homme, elle lui dit timidement à l'oreille « Chez toi ?» Il témoigna quelque étonnement de la trouver libre. « Et quand je ne le serai pas, répondit-elle, ne crois-tu pas que je t'aime ?»« Mais je le suis, ajouta-t-elle aussitôt, voyant Frédéric hésiter. La personne qui m'accompagnait tantôt t'a peut-être donné à penser, l'as-tu regardé ?»«
Non, je n'ai regardé que toi.
C'est un excellent garçon, il est marchand de nouveautés, assez riche, il veut m'épouser. »
« T'épouser, dis-tu, es-tu sérieux ?»«
Très sérieux. Oh, je ne l'ai pas trompé. Il sait l'histoire entière de ma vie. Mais il est amoureux de moi. Il connaît ma mère et il a fait sa demande il y a un mois. Ma mère ne voulait rien dire sur mon compte. Elle a pensé me battre quand elle a appris que je m'avais tout déclaré. Il veut que je tienne son comptoir. » Ce serait une jolie place, mais car il gagne par an 15 000 francs. Malheureusement, cela ne se peut pas.
Et pourquoi ? Y a-t-il quelque obstacle ?
Je te dirai cela, mais commençons par aller chez toi.
Non, non, parle-moi d'abord franchement.
Mais c'est que tu vas te moquer de moi. J'ai de l'estime et de l'amitié pour lui. Oh, c'est le meilleur homme de la terre. Mais il est trop gros.
Trop gros, quelle folie!
Mais tu ne l'as pas vu. Il est gros et petit, et tu as une si jolie taille.
Et sa figure, comment est-elle?
Pas trop mal. Il a un mérite, c'est d'avoir l'air bon et de l'être. Or, je lui suis plus reconnaissante que je ne puis le dire. Et si j'avais voulu, même sans m'épouser, il m'aurait déjà fait du bien. Pour rien au monde, je voudrais le chagriner. Et si je pouvais lui rendre un service, je le ferais de tout mon cœur.
Mais épouse-le donc, s'il en est ainsi.
Il est trop gros. C'est impossible. Allons chez toi, nous causerons.
Frédéric se laissa entraîner. Et lorsqu'il s'éveilla le lendemain, il avait oublié ses ennuis passés et les beaux yeux de Mademoiselle Darcy. Bernadette le quitta après déjeuner et ne voulut pas qu'il la ramenât chez elle. Il mit de côté l'argent qu'on lui avait prêté, bien résolu à payer ses dettes. Mais il ne se pressa pas de les payer. Quelques temps après, il fut d'un souper chez Gérard. On ne se sépara qu'au jour. Comme il sortait, Gérard l'arrêta.
« Que vas-tu faire ? » lui dit-il. « Il est trop tard pour dormir. Allons déjeuner à la campagne. »
La partie fut arrangée. Gérard envoya réveiller sa maîtresse et lui fit dire de se préparer.
« C'est dommage, dit-il à son ami, que tu n'aies pas aussi quelqu'un à emmener. Nous ferions partie carrée. Ce serait plus gai. »«
Oh, qu'à cela ne tienne, répondit Frédéric, cédant à un mouvement d'amour-propre. « Oh, je vais, si tu veux, écrire un petit mot que ton groom portera ci-après. Quoi qu'il soit un peu matin, Bernadette viendra, je n'en doute pas. »«
À merveille, qu'est-ce que c'est que Bernadette ? N'est-ce pas ta grisette d'autrefois ?»«
Précisément, c'est à son sujet que tu me faisais ta morale. »
Vraiment, dit Gérard en riant. Ben, j'avais peut-être raison, ajouta-t-il. Tu as un caractère constant. C'est dangereux avec ces demoiselles.
Comme il parlait, sa maîtresse entra. Bernoret ne se fit pas attendre, elle arriva parée de son mieux. On envoya chercher une voiture de remise et, malgré un temps assez froid, on partit pour Montmorency. Le ciel était clair, le soleil brillait, les jeunes gens fumaient et les deux dames chantaient. Au bout d'une lieue, elles étaient amies. On fit une promenade à cheval. Lancé au galop dans les bois, Frédéric se sentait battre le cœur. Jamais il ne s'était trouvé si à l'aise. Bernerette était près de lui. Il voyait avec orgueil l'impression que produisait sur Gérard le charmant visage de la jeune fille animée par la course. Après un long détour dans la forêt, ils s'arrêtèrent sur une petite éminence où se trouvaient une maisonnette et un moulin. La meunière leur donna une bouteille de vin blanc et ils s'assirent sur une bruyère. « Nous aurions bien dû, dit Gérard, apporter quelques gâteaux. La digestion se fait vite à cheval et je me sens de l'appétit. Nous aurions fait un petit repas sur l'herbe avant de reprendre le chemin de l'auberge. » Bernerette tira de sa poche une talmouse qu'elle avait prise en passant à Saint-Denis et l'offrit de si bonne grâce à Gérard qui lui baisa la main pour la remercier. « Mais faisons mieux, dit-elle, au lieu de retourner au village, dînons ici. Cette bonne femme a bien un quartier de moutons dans sa maisonnette. D'ailleurs, voilà des poules qu'on nous fera rôtir. Demandons si cela se peut. » Et pendant que le dîner se prépara, nous ferons un tour dans le bois. Qu'en pensez-vous? Cela vaudra bien les antiques perdreaux du cheval blanc. La proposition fut acceptée. La meunière voulait s'excuser, mais éblouie par une pièce d'or que Gérard lui donna, elle se mit à l'œuvre aussitôt et sacrifia sa basse-cour. Jamais dîner ne fut plus gai. Il se prolongea plus longtemps que les convives n'y avaient compté. Le soleil disparut bientôt derrière les belles collines de Saint-Leu. D'épais nuages couvrirent la vallée et une pluie battante commença à tomber. « Qu'allons-nous devenir ? » dit Gérard. « Nous avons près de 2 lieues à faire pour regagner Montmorency. C'est pas là un orage d'été qu'on n'a qu'à laisser passer. » C'est une vraie pluie d'hiver, il y en a pour toute la nuit. Mais pourquoi cela, dit Bernerette, une pluie d'hiver passe comme une autre. Faisons une partie de cartes pour nous distraire, et quand la lune se lèvera, nous aurons beau temps. La meunière, comme on peut penser, n'avait pas de cartes chez elle. Par conséquent, point de partie. Cécile, la maîtresse de Gérard, commençait à regretter l'auberge et à trembler pour sa robe neuve. Il fallut mettre les chevaux à l'abri sous un hangar. 2 grands garçons d'assez mauvaise mine entrèrent dans la chambre. C'étaient les fils de la meunière. Ils demandèrent à souper, peu satisfaits de trouver des étrangers. Gérard s'impatientait. Frédéric n'était pas de bonne humeur. Rien n'est plus triste que des gens qui viennent de rire lorsqu'un contretemps imprévu a détruit leur joie. Bernerette seule conservait la sienne et ne semblait se soucier de rien. « Mais puisque nous n'avons pas de carte, dit-elle, je vais vous proposer un jeu. Quoique nous soyons en novembre, tâchons d'abord de trouver une mouche.
Une mouche ? Dit Gérard. « Mais qu'en voulez-vous faire ?
Cherchons toujours, nous verrons après. » Tout examiné, la mouche fut trouvée. La pauvre bête était engourdie par l'approche de l'hiver. Bernerette s'en saisit délicatement et la posa au milieu de la table. Elle fit ensuite asseoir tout le monde. « Maintenant, dit-elle, prenons chacun un morceau de sucre et plaçons-le devant nous sur cette table. » Mettons chacun une pièce de monnaie dans une assiette, ce sera l'enjeu. Que personne ne parle ni ne bouge. Laissez la mouche se réveiller. Ah, la voilà déjà qui voltige. Elle va se poser sur un des morceaux de sucre, puis le quitter, aller à un autre, revenir, selon son caprice. Et toutes les fois qu'un morceau de sucre l'aura attiré et fixé, celui à qui appartiendra le morceau prendra une pièce, jusqu'à ce que l'assiette soit vide, et alors nous recommencerons. La plaisante idée de Bernerette ramena la gaieté. On suivit ses instructions. Deux ou trois autres mouches arrivèrent. Chacun, dans le plus religieux silence, les suivait des yeux, tandis qu'elles tournoyaient en l'air au-dessus de la table. Si l'une d'elles se posait sur le sucre, c'était un rire général. Une heure s'écoula ainsi, et la pluie avait cessé. « Oh, je ne puis souffrir une femme maussade !» disait Gérard à son ami pendant le retour. « Il faut avouer que la gaieté est un grand bien. C'est peut-être le premier de tous, puisqu'avec lui on se passe des autres. Ta grisette a trouvé moyen de changer en plaisir une heure d'ennui, et cela seul me donne meilleure opinion d'elle que si elle avait fait un poème épique. Vos amours dureront-ils longtemps ?» « Oh, je ne sais, » répondit Frédéric, affectant la même légèreté que son compagnon. « Si elle te plaît, tu peux lui faire la cour. »« Oh, tu n'es pas franc, car tu l'aimes et elle t'aime. »« Oui, par caprice, comme autrefois. »« Prends garde à ces caprices-là. »« Suivez-nous donc, messieurs, » cria Bernerette, qui galopait en avant avec Cécile. Elles s'arrêtèrent sur un plateau et la cavalcade fit une halte. La lune se levait. Elle se dégageait lentement des massifs obscurs, et à mesure qu'elle montait, les nuages semblaient fuir devant elle. Au-dessous du plateau s'étendait une vallée où le vent agitait sourdement une mer de sombre verdure. Le regard n'y distinguait rien, et à 6 lieues de Paris, on aurait pu se croire devant un ravin de la forêt noire. Tout à coup, l'astre sortit de l'horizon. Un immense rayon de lumière glissa sur la cime des bois et s'empara de l'espace en un instant. Les hautes futaies, les coupes de châtaigniers, les clairières, les routes, les collines se dessinèrent au loin comme par enchantement. Les promeneurs se regardèrent étonnés et joyeux de se voir. « Allons, Bernerette !» s'écria Frédéric. « Une chanson !»« Triste ou gaie » demanda-t-elle. « Mais comme tu voudras, une chanson de chasse, l'écho y répondra peut-être. » Bernerette rejeta son voile en arrière et entonna le refrain d'une fanfare. Mais elle s'arrêta tout à coup. La brillante étoile de Vénus qui scintillait sur la montagne avait frappé ses yeux. Et, comme sous le charme d'une pensée plus tendre, elle chanta sur un air allemand les vers suivants qu'un passage d'Ossian avait inspiré à Frédéric. Par l'étoile du soir, messagère lointaine, dont le front sort brillant des voiles du couchant, de ton palais d'azur au sein du firmament, que regardes-tu dans la plaine? La tempête s'éloigne, les vents sont calmés. La forêt qui frémit pleure sur la bruyère. Le phalène doré, dans sa course légère, traverse les prés embaumés. Que cherches-tu sur la terre endormie? Mais déjà vers les monts je te vois t'abaisser. Tu fuis en souriant, mélancolique ami, et ton tremblant regard est près de s'effacer. Étoile qui descend sur la verte colline, triste larme d'argent du manteau de la nuit. Toi que regarde au loin le pâtre qui chemine, tandis que pas à pas son long troupeau le suit. Étoile, où t'en vas-tu dans cette nuit immense? Cherches-tu sur la rive un lit dans tes roseaux? Où t'en vas-tu si belle à l'heure du silence, tombée comme une perle au sein profond des eaux? Ah, si tu dois mourir, bel astre, et si ta tête va dans le vaste mer plonger ses blonds cheveux, avant de nous quitter, un seul instant arrête, étoile de l'amour, ne descends pas des cieux. Tandis que Bernerette chantait, les rayons de la lune tombant sur son visage lui donnaient une pâleur charmante. Cécile et Gérard lui firent compliment de la fraîcheur et de la justesse de sa voix, et Frédéric l'embrassa tendrement. On rentra à l'auberge et on soupa. Au dessert, Gérard, dont la tête s'était échauffée grâce à une bouteille de vin de Madère, devint si empressé et si galant que Cécile lui chercha querelle. Ils se disputèrent avec assez d'aigreur. Et Cécile, ayant quitté la table, Gérard la suivit de mauvaise humeur. Resté seul avec Bernerette, Frédéric lui demanda si elle s'était trompée sur la cause de cette dispute. « Non, répondit-elle, ce n'est pas de la poésie que ces choses-là, et tout le monde les comprend. »«
Eh bien, qu'en penses-tu? Ce jeune homme a du goût pour toi. Sa maîtresse l'ennuie, et pour la lui faire quitter, tu n'aurais, je crois, qu'à dire un mot. »
Mais que nous importe? Es-tu jaloux?
Mais tout au contraire, et tu sais bien que je n'ai pas le droit de l'être.
Mais explique-toi, que veux-tu dire?
Ma chère enfant, je veux dire que ni ma fortune ni mes occupations ne me permettent d'être ton amant. Ce n'est pas d'aujourd'hui que tu le sais, et je ne t'ai jamais trompé là-dessus. Si je voulais faire le grand seigneur avec toi, je me ruinerais sans te rendre heureuse. Ma pension me suffit à peine. Il faudra d'ailleurs, d'ici un peu de temps, que je retourne à Besançon. Sur ce sujet, tu le vois, je m'explique clairement, quoique ce soit bien à contre-cœur. Mais il y a de certaines choses sur lesquelles je ne puis m'expliquer ainsi. C'est à toi de réfléchir et de penser à l'avenir. »
C'est-à-dire que tu me conseilles de faire ma cour à ton ami?
Non, non, c'est lui qui te fait la sienne. Gérard est riche et je ne le suis pas. Il vit à Paris, au centre de tous les plaisirs. Je ne suis destiné qu'à faire un avocat de province. Tu lui plais beaucoup. Eh, c'est peut-être un bonheur pour toi.
Malgré sa tranquillité apparente, Frédéric était ému en parlant ainsi. Bernerette garda le silence et alla s'appuyer contre la croisée. Elle pleurait et s'efforçait de cacher ses larmes. Frédéric s'en aperçut et s'approcha d'elle.
« Laissez-moi, lui dit-elle. Vous ne daigneriez pas être jaloux de moi, je le conçois, et j'en souffre sans me plaindre. Mais vous me parlez trop durement, mon ami. Vous me traitez tout à fait comme une fille, et vous me désolez sans raison. »
Il avait été décidé qu'on passerait la nuit à l'auberge et qu'on reviendrait à Paris le lendemain. Bernerette ôta le mouchoir qui entourait son cou, et tout en s'essuyant les yeux, elle le noua autour de la tête de son amant. S'appuyant ensuite sur son épaule, elle l'attira doucement vers l'alcôve.
« Ah, méchant !» lui dit-elle en l'embrassant. « Il n'y a donc pas moyen que tu m'aimes ?»
Frédéric la serra dans ses bras. Il songea à quoi il s'exposait en cédant à un mouvement d'attendrissement. Puis il était tenté de s'y livrer, et plus il se défiait de lui-même. Il était prêt à dire qu'il aimait. Cette dangereuse parole expira sur ses lèvres. Mais Bernerette la sentit dans son cœur, et ils s'endormirent tous deux contents, l'un de ne l'avoir pas prononcée, l'autre de l'avoir comprise.